France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et politologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invité a choisi un monument de la littérature. Un classique lu au moins par passage dès l'école, un classique dont les thèmes, la misère, la justice, la fraternité vous sont connus, tout comme ses héros, Jean Valjean, Cosette ou Fantine, tout comme ces lieux, Picpus, les barricades ou encore les égouts.
Monsieur Gratton, je voudrais vous demander quelle est à l'heure actuelle l'ampleur kilométrique du réseau des égouts de Paris.
Eh bien, si l'on tient compte de tous les ouvrages égouts publics et ouvrages accessoires, c'est-à-dire branchement de regard, branchement de bouche, branchement particulier, la longueur totale du réseau atteint actuellement environ 2000 km. Turgot, le père du ministre de Louis XVI, a muré, muraillé et dallé le rue de Ménilmontant en 1737.
Oui, toujours est-il qu'au début du 19e siècle, on en était encore probablement à cet état des égouts décrits par Victor Hugo, les égouts de 1832 au moment des insurrections, l'égout dans lequel Jean Valjean a circulé difficilement avec le malheureux Marius sur les épaules.
C'est d'ailleurs ce grand égout, l'égout de ceinture dont je viens de parler, c'est-à-dire l'ancien rue de Ménilmontant.
Le trajet décrit par Victor Hugo dans Les Misérables est un trajet exact.
Il est absolument exact, on le suit sur les cartes, sur les anciennes cartes, n'est-ce pas, la rue, l'égout de la rue Montmartre, puis le grand ceinture qui se jetait en scène au ponceau de Chaillot.
Maintenant, Victor Hugo a raconté, à propos de ces égouts de 1832, des histoires absolument effroyables. Il a d'abord raconté qu'il y avait des endroits, ce qu'il appelle les sables mouvants de l'égout, les fontis dans lesquels on risquait de s'enliser. Est-ce que c'était possible à l'époque?
En somme, il n'y avait pas de liaison entre le radier et les pieds droits de l'égout. Oui. C'est en somme fort possible.
Bonjour, Réjeanne Sénac.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique à Sciences Po, où vous enseignez également. Vous avez été présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes et on vous doit plusieurs ouvrages, comme Si nous étions des animaux, paru au Seuil, ou Radical et fluide, les mobilisations contemporaines, paru aux presses de Sciences Po. Vous avez choisi d'évoquer avec nous ce matin Les Misérables de Victor Hugo. Sacré choix, je dois dire. Est-ce que vous qui habitez à Paris, il vous arrive parfois de vous promener et de penser à Victor Hugo? Alors, vous faites pas forcément des balades dans les égouts, mais enfin quand même, il y a d'autres quartiers qui sont décrits dans Les Misérables.
J'habite juste à côté de Notre-Dame de Paris.
Donc alors, oui.
Donc j'ai l'impression d'être un peu la voisine de fantômes qui m'ont hanté, oui.
Quel souvenir gardez-vous de votre toute première lecture des Misérables?
Alors c'est étrange parce qu'en plus avec l'audio qu'on vient d'entendre...
Qui date de 1950.
Je me disais que quand je me suis approchée, la première fois que je me suis approchée de ce monument, que sont les Misérables, moi j'habitais un petit village de Prémontagne, je connaissais pas Paris ni aucune grande ville et j'ai mis longtemps avant de connaître... D'ailleurs, la vie en ville et à Paris. Et donc, ça, c'est intéressant parce que je pense que ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu, moi, dans Les Misérables, c'est à la fois des parcours individuels en mouvement, mais c'est aussi des dénonciations, le rapport aux injustices, la mise en visibilité des inégalités. Et donc, c'était très exotique pour moi, Paris, à l'époque. Mais pour autant, j'ai senti une vraie proximité avec ce qui était dénoncé, ce qui était montré. Donc, quand j'ai eu à réfléchir à l'ouvrage qui m'avait le plus accompagné, ou en tout cas le plus marqué, je dirais plus, j'ai spontanément pensé aux Misérables comme une forme d'évidence de rencontre, comme on en a assez rarement dans la vie. Que plusieurs dizaines d'années après, quand je me replonge dans des passages des Misérables, mais c'est vrai aussi quand je passe à côté de Notre-Dame, c'est-à-dire de manière quotidienne, j'ai une pensée pour cette complexité des personnages. Je sais que des fois, on peut accuser Hugo d'être un peu caricatural dans ses personnages. Moi, je trouve qu'ils sont un peu idéotypiques, c'est-à-dire qu'ils disent des questionnements, des enjeux. Mais je les trouve plein de complexité, souvent plein de doutes. Oui, ça m'accompagne. Ça continue à m'accompagner.
Et alors, ce premier souvenir, vous avez parlé d'un village de pré-montagne. Pré-montagne, c'est-à-dire que c'est pas dans la montagne, c'est quoi? Au pied d'une montagne?
C'est ça, au pied d'une montagne. Donc, j'ai été élevée face aux montagnes. Pas dans la montagne, dans un petit village des Hautes-Pyrénées. Et mon institutrice, Madame Corée, à qui je rends hommage en la citant ici, nous avait fait lire. Donc, c'était des classes uniques. On était plusieurs niveaux. Et donc, elle avait eu ce manque d'humilité formidable de nous faire lire des extraits et de nous enregistrer. Et je me souviens que c'est des cassettes, hein. Et c'était magnifique. Et moi, j'incarnais Cosette, je me souviens.
Ah, donc vous aviez quand même le grand rôle.
Voilà, j'avais le grand rôle. Et en même temps, un rôle un peu lourd, un peu dur, parce que c'est un rôle, je trouve, assez... Moi qui assume d'être féministe, et je pense que je l'étais déjà, c'est un rôle où on est à la fois... Elle est en passivité un peu, elle est toujours un peu en creux comme identité. Mais ça m'avait énormément marquée, et les garçons... Il y en avait un qui incarnait Gavroche, et je me souviens, on avait ri parce que c'était des expressions qu'on connaissait pas... J'avais été mais tellement marquée par le premier épisode très très fort de cette générosité, de cette solidarité marquée par Monseigneur Myriel.
Bienvenue. On va entendre ce texte-là sur les chandeliers. On va y revenir, mais continuez.
Et donc j'avais eu comme ça des passages qui m'avaient vraiment percutée. Avec à la fois le fait d'assumer les égouts, hein, parce qu'on a passé les égouts, donc d'assumer ce qu'on veut pas voir en termes d'exploitation, d'inégalité. Alors bien sûr qu'à cette époque-là, j'employais pas ces termes, mais que Hugo ait ce courage. En fait, je pense que j'avais d'emblée perçu une forme de courage de montrer ce qu'on veut pas voir, de montrer la violence, de montrer l'exploitation, de montrer la mesquinerie, de montrer tout, et à la fois d'avoir le courage aussi de montrer le beau. Et je trouve ce qui m'avait percuté dans cet ouvrage, c'est la cohabitation. Et c'est la bagarre, quelque part, au sein d'un même écrit très poétique aussi. J'avais été embarquée dans cette poésie d'Hugo. Et d'embarquer ensemble le beau et le laid, en fait. Et que la poésie naisse de cet entremêlement. Ça m'avait donné, je crois, une forme d'énergie aussi. Parce que je pense que j'avais quand même, et j'ai vécu dans ma vie des passages où je crois que j'ai ressenti un peu d'humiliation. J'ai jamais eu trop honte, mais j'ai ressenti de l'humiliation liée à mon parcours. Et là, je trouvais qu'il y avait tous les éléments pour avoir le rebond, à la fois dans la confiance qui allait y avoir des chandeliers dans la vie et qu'on allait les garder, parce qu'il les conserve jusqu'au bout, ces chandeliers, mais qu'il allait aussi y avoir des Javert, des Thénardier, voilà. Mais des Monseigneur Myriel, il en suffit d'un, en fait.
Donc ça veut dire que Hugo vous accompagne non pas seulement par le choc premier que vous avez eu, ou parce que vous habitez à côté de Notre-Dame de Paris, mais parce que vraiment, il peut, à certains moments même, vous consoler. On pourrait le dire comme ça. Est-ce que vous y avez pensé dans ces moments d'humiliation que vous distinguez d'ailleurs de la honte?
Alors, non, je peux pas dire que j'ai pensé spontanément à lui, mais
vous
je pense
pas dit
que...
Vous n'avez pas dit « je vais lire du Hugo » à ce moment-là?
Non. Par contre, je pense que il a fait écho chez moi, il a fait résonance. Moi, j'aime bien Hartmut Rosa sur ce concept de résonance.
Voilà.
Et en fait, je pense que ça a fait résonance avec mon rapport au monde, en fait. C'est-à-dire que je crois que j'ai toujours à la fois une grande lucidité, mais aussi une grande énergie de vie, un souffle. Et donc, je crois à la fois à la beauté et à la laideur entremêlées. Et donc, quand j'ai des moments où je suis confrontée plus aux égouts, j'ai toujours les chandeliers. Et ça, peut-être que métaphoriquement, je le garde des Misérables.
Vous travaillez aujourd'hui, Réjane Sénac, et depuis plusieurs années, sur les mobilisations, sur les inégalités, sur la question de la justice sociale. Est-ce que vous pensez que c'est cette première lecture d'Hugo, qui a quand même ouvert ces questions-là pour vous. Il faudrait quand même aussi se demander qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir, parce que bon, quand on est à l'école primaire, est-ce qu'on a déjà conscience, en fait, de questions aussi cruciales?
Alors moi,
je pense que oui, en fait, finalement.
Voilà. Ouais, moi, je crois vraiment que les enfants, et là-dessus, c'est un point d'ailleurs qui est soulevé dans l'ouvrage, je trouve, le rapport qu'on peut avoir très paternaliste aux enfants. Et je crois que vraiment, moi, dès mes premiers souvenirs, j'ai eu cette impulsion de sentiment d'injustice, d'inégalité. Et je crois que si on laissait aux enfants la possibilité de s'exprimer, ils sont des philosophes en herbe, avec une curiosité et un dépassement des cadres qui sont pas encore trop ancrés en eux. Donc Hugo, avec son côté foisonnant, a permis à cette énergie de s'exprimer, en sachant que je me suis pas du tout enfermée dans une dimension sacrée ou de sacraliser cet homme dont je vois aussi les ombres, hein, lui qui parle beaucoup en lumière et en ombre, il a aussi des ombres, Hugo, même s'il a l'atout d'être dans un mouvement et dans une évolution. Donc je ne pense pas que ce soit grâce à lui, mais il a fait partie de ces petits rayons qui permettent de respirer, en fait, tout au long de mon parcours. Et moi, ce qui est le fil un peu de mon parcours, c'est que je crois que j'ai eu la naïveté de croire à ce qu'on me disait depuis toute petite, et en particulier que la France était le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, au sens de solidarité. Et en même temps, j'ai eu la lucidité de voir que c'était pas vrai. Et donc, j'ai perçu assez tôt, je pense, cette énergie de ce que c'est que le politique, et je deviens politiste après, mais qui est ce décalage entre ce qui est et ce qui devrait être. Et pour moi, Hugo, je pense qu'il est toujours dans cette discussion entre ce qui est et ce qui devrait être. Et cet intervalle-là, qui est un intervalle à la fois inconfortable et très stimulant, ça a été ce qui a conduit, je pense, à la fois mon parcours personnel et de passion en tant que chercheur.
Mais c'est intéressant parce que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, vous l'avez dit, il y a un écart, en fait, entre le fait de la dire et le fait de la constater, en fait, qu'elle soit là. Et vous dites, je n'y ai pas cru. Je n'y crois pas. Hugo, lui, quand même, croyait à cette devise républicaine. Il ne faisait que constater cet écart, mais il la défendait coûte que coûte.
Ah ben moi aussi, je la défends. Sauf que, et d'ailleurs, mes travaux portent...
Vous pensez que vous êtes peut-être moins idéaliste que lui, optimiste ?
Je suis idéaliste. Alors, je ne suis pas optimiste, parce que je pense que j'ai pas eu le luxe d'être optimiste. Je suis lucide. Mais... par contre, j'ai beaucoup travaillé sur les conditions d'impossibilité et de possibilité de l'égalité. Hein, et pour les non-frères, parce que ce terme de fraternité est un terme qui dit, en fait, que le qui du politique a longtemps été uniquement pour les frères. Et quid des non-frères que sont les femmes, les personnes racisées, les pauvres.
Donc, les enfants.
C'est là-dessus que et les animaux non humains, sur lesquels je travaille aussi. Donc, c'est là-dessus que je travaille. C'est sur cet écart, mais c'est parce que je crois à cet horizon de justice. Donc, je suis éminemment idéaliste, mais une idéaliste critique toujours dans ce mouvement.
On va écouter Réjeanne Sénac, un des premiers épisodes, le plus marquant, celui qu'on appelle l'épisode des chandeliers, des Misérables de Victor Hugo.
Entrez. Oh, bonjour, brigadier.
Monseigneur, nous avons trouvé cet homme-là.
Monseigneur, c'était donc pas le curé ?
Silence, toi ! C'est Monseigneur l'évêque.
Oh, vous voilà, Monsieur Valjean. Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ? Madame Magloire, allez les chercher.
Bien, Monseigneur.
Monseigneur, ce que cet homme disait était donc vrai ? Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir et il avait cette argenterie.
Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Oui, je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise.
Alors, comme cela, nous pouvons le laisser aller?
Sans doute.
Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse?
Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas?
Mon ami, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. Maintenant, allez en paix. À propos, Quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit. Monsieur le brigadier, messieurs, vous pouvez vous retirer.
Monseigneur.
Au revoir, brigadier. Au revoir, messieurs. Attendez, un instant, monsieur Valjean.
Oui.
Je voudrais encore vous dire un mot. N'oubliez pas. N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu.
Extrait des Misérables de Victor Hugo, chef-d'œuvre de la littérature que vous avez choisi d'évoquer avec nous ce matin, Réjeanne Sénac. On est ici au tout début du livre, on est dans le premier livre intitulé Fantine. Précisément, nous sommes dans le livre 2, La Chute, chapitre 12, L'évêque travaille. C'est une adaptation de 1962 et c'est ce passage qui vous a époustouflé, on pourrait dire, quand vous étiez à l'école primaire. Donc pas un passage que vous interprétez, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas encore Cosette. Elle n'existe pas encore, Cosette. Mais c'est ce passage-là qui vous a marqué.
Je le trouve extraordinaire, ce passage.
Alors peut-être qu'il faut resituer pour des auditeurs, auditrices qui n'ont peut-être plus en tête ce passage, ou pas du tout en tête d'ailleurs, cet épisode des chandeliers.
Alors Jean Valjean, donc c'est intéressant aussi, c'est dans la critique de l'institution justice, hein, et on verra aussi de critique de l'institution police avec incarnée par Javert. Mais donc Jean Valjean est un bagnard. Il sort du bagne et il a fait, si je me trompe pas, 19 ans de bagne pour avoir volé du pain. Et là il cherche un endroit où se poser et on verra que c'est quelque chose d'un peu récurrent chez Hugo, avec l'homme qui rit aussi, où il y a cette quête comme ça de trouver quelqu'un qui vous ouvre la porte, qui vous tend la main. Et là, c'est cet évêque qui ouvre sa maison et qui lui donne gîte et couvert. C'est le cas de le dire, hein, pas que métaphoriquement en fait, puisqu'il va partir avec les couverts, hein, avec les couverts en argent, après avoir mangé et dormi chez cet évêque. Et là, c'est le moment où il est attrapé par les gendarmes, mm-hmm. qui le ramène chez l'évêque avec les couverts en argent. Et au lieu de dire la vérité, ça c'est très intéressant, le jeu sur la vérité aussi, par un évêque qui est censé ne pas mentir. Donc moi, ça m'avait perturbé, ça. Enfin, j'avais trouvé ça formidable que il y ait cette question sur à quel moment le mensonge est souhaitable et moral. Enfin,
produit du bien.
Voilà. Donc c'est, il y a quelque chose là sur le rapport à la propriété, sur le rapport à la vérité, au mensonge, sur le rapport à la générosité, sur ces moments de vie qui changent des vies et qui changent des parcours. Et comment c'est un peu un pacte faustien à l'envers, en fait, où il rachète son âme au mal. On verra que ça, il y aura des rechutes. Et Hugo, c'est aussi le rapport au doute, aux rechutes, voilà. Mais là, il y a vraiment pour moi, ça dit le fait que on est toujours dans du jeu qui est du nous. Et c'est-à-dire que à la fois le côté où nos parcours sont tellement associés à notre héritage, individuel. C'est parce qu'il était pauvre qu'il a dû voler, c'est parce qu'il a volé qu'il a été enfermé de manière complètement décalée en termes de réponse pénale. Et il a eu la chance sur son chemin de croiser Monseigneur Myriel et d'entendre ce qu'il y a dit aussi et ce qu'il y a donné, de pouvoir recevoir ce cadeau qui est un cadeau en fait ambivalent, puisque c'est un cadeau qui l'oblige. Donc j'ai trouvé qu'il y avait tellement de complexité dans ce passage et qui disait pour moi la centralité de la solidarité. C'est-à-dire que il était nécessaire, peut-être en réparation, pas tellement au mal qu'il avait fait, Jean Valjean, puisque il avait répondu à un besoin en volant du pain, donc, mais au mal qu'on lui avait fait. C'est-à-dire que l'évêque répare le mal que la société a fait à ce misérable. Et le rend, la richesse qu'il lui donne, c'est une richesse de solidarité. Hein. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ensuite, et alors les personnages féminins n'ont pas vraiment le beau rôle chez Hugo, je le pardonne, hein, mais je lui pardonne. Mais c'est.
Il y en a quand même aussi, qui se révèlent.
Mais... Oui, mais y a, par exemple, Magloire, Madame ouais. Magloire, elle ne comprend pas. Donc
elle est du côté de la justice institutionnelle.
Voilà. Donc elle lui dit, mais. Pourquoi vous avez fait ça ?
Et elle est presque outrée. Hein.
Voilà, elle est presque outrée. Et là, l'évêque lui répond, mais en fait, c'était pas ma propriété. Ces couverts et ces chandeliers n'étaient pas ma propriété. Et donc, ça interroge aussi le rapport à qui ça appartient. Et il dit, en fait, je l'ai usurpé, ça appartenait aux pauvres. Donc, cette idée que les biens doivent être avant tout des biens communs, le rapport au commun, et comment ils doivent servir à ceux qui en ont le plus besoin. Et là, symboliquement, Jean Valjean, c'est lui qui en avait besoin. Et je trouve que la distinction entre les couverts, qui sont de l'ordre de ce dont on a besoin pour manger, ce qui est vital, et les chandeliers, c'est un supplément d'âme. C'est cette lumière qui va le suivre tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, il va vendre les couverts, il ne va pas vendre les chandeliers. Et même à la fin de sa vie, quand il est redevenu pauvre, il y a toujours les chandeliers qui vont l'éclairer. Donc, je trouve que cette idée qu'on... notre obligation, notre devoir en tant qu'humain, et de se transmettre la lumière et de donner à ceux qui en ont besoin la lumière dont nous, on n'a peut-être plus besoin. Moi, ça me renvoie, par exemple, à la décision du Conseil constitutionnel de juillet 2018, suite au recours de Cédric Héroux, un paysan de la vallée du Roya, qui avait été condamné parce qu'il avait été solidaire avec des personnes en situation irrégulière sur notre territoire, juste parce qu'il avait été spontanément solidaire de ceux qui avaient faim, de ceux qui avaient soif, de ceux qui avaient besoin d'un toit. Donc c'est Monseigneur Myriel, hein, Cédric Héroux.
Oui.
Et il fait un recours, donc il y a les Javert qui le pourchasse, et lui, il fait un recours, et le Conseil constitutionnel, et c'est là où on doit avoir espoir et dans notre devise, et là, ça incarne vraiment ça. Le Conseil constitutionnel reconnaît la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle. Ce qui a des effets concrets, c'est pas uniquement un positionnement théorique ou idéologique, puisqu'on ne peut plus être condamné parce qu'on a été solidaire, parce que sinon, on pourrait condamner Monseigneur Myriel. On peut encore être condamné si on aide au passage de frontières, par contre.
C'est ça qui est assez frappant quand on lit les Misérables, même pas intégralement, hein, même juste des grands passages, même si on pioche, parce que je rappelle quand même que c'est un livre de 1500 pages, de 5 livres, c'est vraiment foisonnant, vous l'avez dit, Réjeanne Sénac, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression qu'Hugo nous met face à des dilemmes moraux qu'on aura forcément rencontrés dans sa vie ou qu'on va forcément rencontrer dans sa vie. Mais ce qui est troublant dans cet épisode des Chandeliers, et notamment dans ce personnage du Monseigneur, de Monseigneur Myriel, ou Bienvenue, puisqu'on l'appelle comme ça, et après de Jean Valjean, qui va devenir cet homme moral, c'est qu'on a du mal parfois à se mettre à leur place, c'est-à-dire qu'on se pose soi-même la question de à quel moment dois-je faire le bien ? Est-ce que je fais le bien ? Qu'est-ce que d'ailleurs faire quelque chose de bien ? Parce que on pourrait se dire, être en désaccord avec la société, est-ce que c'est aussi pas une manière en fait de condamner en fait ces lois, d'apporter du trouble ? Je trouve qu'en fait cette question-là de se dire d'être le Seigneur Monseigneur bienvenu, c'est un saint. Mais pour être un saint, en fait, c'est comme si on avait déjà toutes les réponses sur ce qui est le bien et le mal. Or, Hugo nous met face à cette idée que c'est difficile, en fait, de trancher quand on est simplement des humains.
Alors, moi, je dirais que maintenant que je travaille en particulier sur les mobilisations contre les injustices, Hugo parle beaucoup de bien et de mal, mais moi, je trouve que c'est intéressant de se poser la question du juste et de l'injuste.
Et plutôt que du bien et du mal.
Plutôt que du bien et du mal, on est dans quelque chose de plus d'emblée politique. Et ce que fait Monseigneur Myriel, c'est pour ça que je le compare je compare Cédric Héroux, j'espère qu'il n'en sera pas froissé.
Il y a pire quand même comme comparaison.
C'est une forme de désobéissance civile. C'est-à-dire que c'est au nom de la conception de ce qui est juste, de ce qui est légitime, qu'on considère que quand le droit n'est pas à la hauteur, le droit et son application n'est pas à la hauteur du juste, on est en position de trancher pour le juste.
Mais encore faut-il avoir une conception du juste ? On peut se tromper aussi.
Oui, mais il y a quand même, et c'est là où moi je crois, de la même manière qu'il y a une évolution quand même d'Hugo politiquement, parce que je crois à des principes fondamentaux qui sont des principes qui nous permettent de tenir droit, et j'espère de faire face et de résister face à la remise en cause de ces principes, qui sont l'application du principe d'égalité, justement, d'émancipation, du pluralisme. Donc il y a quand même quelque chose qui, là, doit nous tenir droit, au-delà de notre conception du bien et du mal. C'est pour ça que pour moi, le juste, on est plus dans une logique de démocratie libérale de droits fondamentaux, où on peut se dire il est injuste que quelqu'un comme Jean Valjean, qu'incarne Jean Valjean, ait subi 19 ans de prison pour avoir volé du pain alors qu'il avait faim. Et donc, je m'oppose à ça. Et face à, par exemple, ça me fait penser au philosophe américain botaniste Thoreau, qui refuse de payer les impôts parce qu'il ne veut pas participer, qu'un de ses dollars participe à la ségrégation raciale ou à la guerre au Mexique. Et donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conception du juste, en fait, et qu'on ne veut pas participer à ça. Et quelque part, Monseigneur Myriel, il ne veut pas participer de nouveau à l'enfermement de cet homme.
D'ailleurs, il y a cette interjection qu'on entend dans cette adaptation. Il faut quand même souligner que dans cette adaptation, puisqu'elle est une adaptation, donc voilà, qu'elle est jouée, on se rend compte que Jean Valjean ne parle pas, mais on n'a pas du coup la phrase que nous dit le narrateur au moment où Jean Valjean, lui, se dit « Jean Valjean n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis à l'évêque, il resta interdit, l'évêque avait appuyé sur ses paroles en les prononçant. » Et à ce moment-là, il prononce l'évêque « mon frère ». Ça, c'est important aussi parce qu'on parlait de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Là, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas l'égalité qui est en cause, c'est vraiment en question, c'est vraiment la fraternité.
Oui, et comme je vous ai dit tout à l'heure, à double titre, c'est-à-dire « mon frère », on fait partie de la même famille humaine. Terme de frère, on sait, a exclu les femmes très longtemps et les personnes racisées, qui on considère comme faisant partie de sa famille, donc ça c'est un vrai sujet. Mais le frère aussi au sens de solidarité, comme donc là l'a reconnu le Conseil constitutionnel. Donc je trouve que là c'est très intéressant. Et d'ailleurs, avant, il lui dit « j'ai pas besoin de savoir votre nom, je sais que vous êtes mon frère ». Donc avant cet épisode, avant qu'il vole les chandeliers, donc il y a vraiment cette idée qu'on fait partie de la même communauté. Et ça me fait penser à Hannah Arendt qui avait une définition de l'humanité que je trouve magnifique. Être humain, c'est s'imaginer comme un semblable. C'est savoir qu'on est différent, mais c'est tendre vers cette égalité qui est de l'ordre de la non-domination.
On va écouter un autre épisode juste après cet épisode des Chandeliers, parce que, comme je l'ai dit, on n'entend pas Jean Valjean dans cet épisode des Chandeliers, mais on va être dans sa tête quelques scènes plus tard.
Jean Valjean pleura longtemps. Il pleura à chaudes larmes, il pleura à sanglots, avec plus de faiblesse qu'une femme, avec plus d'effroi qu'un enfant. Pendant qu'il pleurait, le jour se faisait de plus en plus dans son cerveau. Un jour extraordinaire, un jour ravissant et terrible à la fois. Sa vie passée, sa première faute, sa longue expiation, son abrutissement extérieur, son endurcissement intérieur, sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance, ce qui lui était arrivé chez l'évêque, la dernière chose qu'il avait faite, ce vol de 40 sous à un enfant, crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait après le pardon de l'évêque, tout cela lui revint et lui apparut, clairement, mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vue jusque-là. Il regarda sa vie et elle lui parut horrible. Son âme et elle lui parut affreuse. Cependant, un jour doux était sur cette vie et sur cette âme. Il lui semblait qu'il voyait Satan à la lumière du paradis. Combien d'heures pleura-t-il ainsi? Que fit-il après avoir pleuré? Où alla-t-il? On ne l'a jamais su. Il paraît seulement avéré que dans cette même nuit, le voiturier qui faisait à cette époque le service de Grenoble et qui arrivait à Digne vers 3h du matin, vit en traversant la rue de l'Évêché un homme dans l'attitude de la prière, à genoux sur le pavé, dans l'ombre, devant la porte de Monseigneur Bienvenu.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Nous sommes au chapitre suivant, le chapitre 13, le petit Gervais. Toujours dans le livre de la chute, toujours dans la première partie Fantine des Misérables de Victor Hugo, on se rend compte avec cet épisode que Jean Valjean, pardonné, acheté par l'évêque de Digne, Monseigneur Bienvenu, n'a pourtant pas compris la leçon, puisque juste après, il rencontre le petit Gervais qui a une pièce et il lui vole sa pièce en la coinçant sous son pied en lui disant « mais je n'ai pas vu de pièce ». Le petit Gervais s'en va, dégoûté, pleurant. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu cette lecture. C'est le moment où Jean Valjean prend conscience tout à coup, Réjeanne Sénac.
Alors, dans cet épisode, on voit qu'il y a une prise de conscience d'une forme d'automatisme, de protection de quelqu'un qui a subi énormément dans sa vie. Hein. Il est resté près de 20 ans au bagne, avec toute la violence que ça implique et que la survie était sans doute associée à plus qu'une défense, une attaque. Et là, en fait, Il y a des passages où il explique qu'il se rend compte après que le petit Savoyard soit parti, qu'il a eu un comportement de l'ordre de l'automatisme, hein, avec un plus faible que lui-même. Et donc, comment la survie passe par l'agression du plus faible, par la soumission du plus faible. Et comment il est là dans un chemin où quand même la lumière à travers les chandeliers qu'a mis l'évêque en lui, va s'ouvrir, en fait, va prendre la place de l'ombre, hein, toutes ces métaphores entre l'ombre et la lumière. Et il va s'en vouloir et il va être dans un début de chemin de rédemption. Il va le chercher, petit Gervais, il va l'appeler, il va pas le retrouver.
Et donc, ça va le hanter. Hein,
ça va le hanter et donc là, ça va être tout son parcours. Et après, le petit Gervais, c'est sans doute Cosette réincarnée. Enfin, voilà, il y a tout ce parcours-là où il va aider les personnes plus vulnérables que lui. Donc, il y a vraiment, je trouve, ce chemin intéressant qui est un chemin où on n'est pas dans du on ou du off, hein, en termes de rédemption, en termes de changement de rapport au monde. Mais comment on passe d'un rapport où il avait toujours vécu dans des logiques de rapport de force du fort et du faible, et que les seules fois où il était en position de force, il en profitait, et là où il va dans un autre chemin de questionnement, comme vous le disiez tout à l'heure, où on est toujours en mouvement sur comment est-ce que dans nos rapports interindividuels, dans notre conception du commun, on essaie de faire advenir le juste. Et que ça, c'est un parcours jamais achevé. Hein. Et que c'est plein de tourments. Il pleure. Et c'est intéressant. Alors, la comparaison sexiste avec les femmes est assez...
Enfants.
Ou les enfants.
Je ne sais pas comment on pourrait dire le fait de l'équivalent de sexisme pour enfants.
Oui, c'est de domination adulte, hein, ouais. Infantiste. Voilà.
Infantiste.
Infantiste. Et c'est intéressant parce que lui qui, par ailleurs, il est Hugo est aussi, je pense, plein d'ambivalence. Lui qui, par ailleurs, quand même, à travers le personnage de Fantine, promeut une plus grande reconnaissance des femmes dans leur capacité à être des sujets et pas des objets, en particulier des objets qui sont obligés de se vendre, hein, de vendre leurs cheveux, leurs dents, des marchandises, et puis de se prostituer.
Oui, il faut quand même dire aussi que Fantine, donc ce personnage qui ouvre, hein, quand même, qui donne le titre à cette première partie, c'est le nom de la mère de Cosette, et ça a fait scandale au moment de la parution des Misérables, puisque Fantine, c'est quand même une prostituée que Victor Hugo a élevée au rang d'héroïne.
Et là, on voit bien qu'il, justement, il élève au rang de sujet, hein, les Misérables, hein, ceux qui subissent et ceux qui deviennent actrices et acteurs sujets, parce qu'on leur tend la main, parce qu'on se tend la main les uns avec les uns. Et on se dit d'ailleurs qu'il y a comme une chaîne où ensuite il pourrait tendre la main lui-même au Monseigneur Myriel s'il trébuchait. En tout cas, je trouve que ce passage par rapport au petit Gervais, il est vraiment intéressant, même s'il y a des scories, hein, de sexisme, d'infantisme ou de spécisme, parce qu'il dit que
le spécisme... On l'a pas dans l'extrait là, mais
oui, mais il dit qu'il s'est comporté comme une bête, en fait.
Oui.
Et alors qu'on sait que Hugo a pris position contre la maltraitance animale, à la fois dans la loi Gramont en tant que politique en 1845, mais aussi parce qu'il est devenu président de l'association contre la vivisection. Donc il avait une véritable attention à notre comportement vis-à-vis de ces individus qui ressentent la souffrance et le plaisir que sont les animaux non humains, puisque nous aussi, nous sommes des animaux. Et donc, il avait cette vision de la communauté élargie. Mmh. Et pour autant, il y a quand même des réflexions un peu spécistes où là, il y a l'idée
après,
que...
Après, c'est le langage courant aussi.
Oui, mais qui n'est pas interrogé.
Quand on trace un chemin vers l'humanité, puisque c'est ça... Le fait, par exemple, de pleurer est un chemin vers l'humanité, alors qu'on pourrait très bien se dire, effectivement, que le fait de pleurer est vraiment la marque de la souffrance, qui est communément partagée par tous les animaux. Mais il y a quelque chose aussi de... Voilà, Hugo est présenté comme un humaniste. Donc un humaniste exclut d'emblée, ou en tout cas de manière sous-entendue...
Le fait de se comporter comme une bête,
animal.
Comme
voilà,
un animal.
C'est ça. Voilà. Et ça pose cette question-là aussi, et que vous posez dans vos travaux récents, Réjeanne Sénac, c'est comment... humaniser sans désanimaliser. Ça, c'est un vrai enjeu aussi qu'on a d'ailleurs aussi au cœur des Misérables, puisque l'idée, c'est de devenir des humains sans exclure d'autres que soi.
Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs épisodes chez Hugo. Il y a l'épisode de ce cheval épuisé qui meurt sous les yeux aussi de Fantine, qui est la seule à éprouver de l'empathie. Voilà, qui est la seule à éprouver de l'empathie. En tout cas, c'est vrai que dans notre rapport à l'humanisation et à l'émancipation, on a tendance à l'associer à la débestialisation parce qu'on a sorti justement de la fraternité, de la communauté politique, des groupes en les animalisant, en animalisant les femmes, en animalisant les personnes racisées, les pauvres. Et donc, la gageure est d'être reconnu comme un humain à part entière et donc de passer cette barrière de la bestialisation. Et Hugo, là, malheureusement, ne...
Ah, vous n'adhérez pas complètement à Hugo. Vous avez quelques réserves. Ce qui est particulièrement frappant quand même quand on entend Hugo, parce qu'en fait, Hugo, je l'ai dit, c'est un monument, Les Misérables, c'est un chef-d'œuvre. Il faut quand même dire que peut-être peu de monde, en fait, l'ont lu en entier, on connaît des grands passages, et on le présente souvent comme quelqu'un qui pourrait être aussi assez moral, assez définitif, presque manichéen entre le bien et le mal. Mais là, ce qu'on voit avec Jean Valjean, et on va écouter un autre texte juste après, c'est quand même cette difficulté à faire le bien. C'est-à-dire que tout à coup, Jean Valjean, c'est pas parce qu'il y a eu les chandeliers, c'est pas parce qu'il y a le petit Gervais qui va faire le bien tout à coup. Toute sa vie, ça va être des questionnements. Il sent qu'il peut trébucher, on sent qu'il peut refaire le mal. Et ce passage-là le dit très bien. La conversion, elle est pas immédiate, soudaine et définitive.
Absolument. Et quand vous disiez que j'ai des réserves sur Hugo, non, je pense que c'est peut-être être respectueuse du mouvement que nous amène à avoir Hugo, ou que nous invite à partager avec lui Hugo, que d'avoir cette humilité envers soi, envers aussi Hugo, qui est plein de contradictions lui aussi, à la fois dans ses écrits et dans sa vie. Donc je pense qu'il nous apprend ça, Hugo, et je trouve que la manière dont il a pu être lu, à la fois par ses contemporains, qui disaient qu'il avait une charité effrayante, voilà.
Une charité effrayante, c'est un bon terme.
Voilà, et je trouve que, ou par nos contemporains, je trouve que c'est pas rendre hommage à Hugo dans toutes ses contradictions et dans toute cette complexité, et dans une appréhension par le doute.
Ce qu'on trouve d'ailleurs, c'est ce que je disais, dans cette description du chemin, du cheminement de Jean Valjean, on va tout de suite écouter Réjeanne Sénac. Alors là, c'est un bond dans le temps, puisqu'on passe du début des Misérables à la fin. Donc vous allez savoir ce qui se passe à la fin, chers auditeurs, chères auditrices.
Approchez tous les deux. Je vous aime bien. Oh. Que c'est bon de mourir comme cela. J'écrivais tout à l'heure à Cosette, elle trouvera ma lettre. C'est à elle que je lègue les deux chandeliers qui sont sur la cheminée. Ils sont en argent, mais pour moi, ils sont en or. Ils sont en diamant. Ils changent les chandelles qu'on y met en cierges. Je ne sais pas si celui qui me les a donnés est content de moi là-haut. J'ai fait ce que j'ai pu. Mes enfants, vous n'oublierez pas que je suis un pauvre. Vous me ferez enterrer dans un premier coin de terre venue, sous une pierre pour marquer l'endroit. C'est là ma volonté. Pas de nom sur la pierre. Si Cosette veut venir un peu quelquefois, cela me fera plaisir. C'est fini. Mes enfants, ne pleurez pas. Je ne vais pas très loin. Je vous verrai de là. Vous n'aurez qu'à regarder quand il fera nuit, vous me verrez sourire. Cosette. Voici le moment venu de te dire le nom de ta mère. Elle s'appelait Fantine. Retiens ce nom-là. Fantine. Mets-toi à genoux toutes les fois que tu le prononceras. Elle a bien souffert. Elle t'a bien aimé. Elle a eu en malheur tout ce que tu as en bonheur. Ce sont les partages de Dieu. Il est là-haut, il nous voit tous, et il sait ce qu'il fait au milieu de ces grandes étoiles. Je vais donc m'en aller, mes enfants. Aimez-vous bien, toujours. Il n'y a guère autre chose que cela dans le monde. S'aimer.
Réjeanne Sénac, nous voici à la fin des Misérables de Victor Hugo. Alors, on n'aura pas parlé de Marius, de Cosette véritablement en détail, des barricades de l'insurrection républicaine de 1832. Nous sommes arrivés aux dernières paroles de Jean Valjean qui révèle toute la vérité à Cosette. Sa mère était Fantine, il repart des chandeliers et ce texte, vous avez voulu nous le faire entendre un peu in extremis, je dois dire, parce qu'on n'avait pas prévu de le diffuser au départ. Pourquoi ?
Alors, il y a deux raisons, une raison structurelle, une raison conjoncturelle. Une raison structurelle, c'est que je trouve que ce qui est magnifique, c'est de voir tout ce parcours avec les chandeliers qui tiennent le fil. Et ce final sur un appel aussi au pardon, parce que là, il y a pas à la fois à l'amour et au pardon, même pardonner jusqu'au Thénardier. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Sur aussi le fait que Hugo, il a écrit en deux fois Les Misérables. Et il dit qu'il reprend l'écriture des Misérables lors de son exil à Guernesey en 1860, alors qu'il avait commencé en 1845 jusqu'en 1848. Parce que, et il dit, le pair de France est interrompu et le proscrit a continué. Il y a quand même cette idée qui fait écho à mes travaux, que c'est aussi quand on expérimente des injustices qu'on est le mieux placé pour en être la voix. Donc il y a, je trouve, cette idée. Et d'ailleurs, à la fin, Jean Valjean, il veut être enterré sans nom, hein, et sur sa tombe, il n'y a pas de nom. Donc on voit qu'il y a cette idée qu'il est le porte-parole, hein, de tous les misérables. Donc je trouve qu'il y a énormément d'éléments. Et puis la dimension conjoncturelle, c'est parce que j'en ai discuté avec mon ado de fils et je lui ai dit, ben voilà, j'ai choisi Les Misérables et que je lui avais fait lire quand il avait 12 ans et pour moi c'était essentiel que mon enfant lise cet ouvrage. S'il devait lire qu'un ouvrage, c'était celui-là. Il a eu la force et le courage de le lire en entier et il m'a dit, mais...
J'aime bien que je précisais le courage et la force de le lire en entier.
Et il m'a dit, Tempête sous un crâne, c'était magnifique. Donc, la bataille de Waterloo, voilà. Il y a plein d'éléments comme ça. Tempête sous un crâne qui dit tous les doutes, justement,
que rencontre Jean Valjean.
Et la fin. Et comme il fait du théâtre, voilà, il aime ça. Il m'a lu la fin. Là, on a eu ce moment magnifique et je me suis dit, mais il faut absolument que la fin soit entendue.
Alors, je vais me faire l'avocate du diable. Est-ce que c'est pas un peu cucu, cette fin, avec il faut s'aimer, il faut... Enfin, voilà, vous voyez, c'est les grands mots, un discours, la vie, finalement. En plus, Hugo qui dit qu'il parle du côté des proscrits, il est parti quand même en exil à Guernesey en réaction, hein, contre le coup d'État de Napoléon III. Il n'est revenu à Paris qu'à la chute de l'Empire. Donc, il a été, de ce point de vue-là, très cohérent, mais ça restait quand même un homme écouté. C'est-à-dire qu'il n'était quand même pas du côté des dominés, Victor Hugo. Et cette fin-là a quelque chose d'un peu... Vous trouvez pas un peu à l'eau de rose? Non, pas à l'eau de rose, ce serait romantique, mais
je trouve que...
Un peu guimauve.
Ah, moi, je trouve absolument pas. Je trouve qu'il est tellement courageux d'aimer quand on est confronté à la dureté, à la violence, à l'injustice, quand on a le courage de montrer l'injustice. Et même quand on est d'un parcours où on était d'abord privilégié, ce qui était plutôt son cas, moi, je trouve que c'est très courageux. C'est tout sauf nunuche, en fait.
Nunuche.
Ah non, c'est tout sauf nunuche d'aimer. Et je pense que on va aussi faire un clin d'œil à une autre œuvre d'Hugo que j'ai découvert beaucoup plus récemment. Et je trouve que cette idée que dans un diagnostic de dureté, et moi, c'est ce que les responsables d'associations activistes que j'interview me disent beaucoup, c'est-à-dire que dénoncer les injustices, c'est être complètement lucide par rapport à la laideur et aux égouts du monde. Et avoir le courage, les pieds dans les égouts, de continuer à regarder l'horizon et à ce que toute son énergie soit à faire le bien, justement, à être bienveillant, à appliquer le juste, même si c'est pas tout à fait la même chose, ben là, je trouve que c'est l'inverse d'être nunuche, en fait. C'est d'avoir une force surhumaine pour continuer à avoir cet horizon-là d'aimer et même de pardonner à ceux qui nous ont humiliés, à ceux qui structurellement, parce que Javert, les Thénardier, c'est des institutions, c'est des symboles, porte la reproduction d'une société injuste. Moi, je trouve que c'est avoir une force magnifique.
Mais c'est une vraie question, en fait. C'est-à-dire, comment, en fait, convaincre à travers des grandes notions, des grands concepts, mais en fait, des grands principes, non pas de leur vacuité. Ils ont tellement été utilisés, la justice, l'amour, le pardon, le bien. Là, on a parlé de la devise républicaine. Comment, justement, redonner un sens qui ne soit pas juste de l'ordre du grand discours
un peu
vide ? Mais
là, je trouve que Les Misérables dit ça, parce qu'à la fois, juste avant, là, on l'a pas entendu, mais il se souvient des endroits où il était passé avec Cosette quand elle était petite, où les arbres sont plus les mêmes quand on est passé avec ceux qu'on aime. On a tous ce ressenti-là, je pense. Donc, aimer, c'est à la fois aimer nos proches, aimer de ce fait-là ce que ça nous dit en termes de poésie au quotidien, mais c'est aussi continuer à croire en l'humanité, en croire au collectif, à croire dans les principes et dans leur application, et en étant, par exemple, un homme politique comme il a été maire d'une ville, en étant un chef d'entreprise qu'il a été et en essayant d'être quand même le plus juste possible. Voilà, et je trouve que Jean Valjean, dans toutes ces métamorphoses, avec des noms différents d'ailleurs, comme Hugo qui a changé de nom quand il s'est exilé, en passant par la Belgique, et tout ça fait qu'il nous montre concrètement que c'est à la fois être cohérent, ce qu'il n'a pas été Hugo, hein, comme aucun d'entre nous d'ailleurs, je pense, mais dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, mais aussi dans son rapport à tout ce qui est institution, collectif. Et je trouve que là, c'est pas que des mots avec leur vacuité, mais c'est vraiment des... Je trouve qu'il met les mains vraiment dans la glaise.
De l'ordre de l'expérience.
Hugo, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup, on peut lire Les Misérables comme on va dans des grands musées comme le Louvre, ce que je fais pour me revigorer de poésie et d'énergie. Et ça me fait penser un peu aux esclaves de Michel-Ange, que j'adore, parce qu'ils sortent toujours de la pierre, ils sont à moitié dans la pierre, ils sont encore enserrés dans la création et toujours inachevée. Et le politique, c'est toujours une création inachevée, et nos vies aussi.
Un dernier texte de Victor Hugo, mais pas des Misérables qui date de 1862, mais d'un texte postérieur, L'homme qui rit, qui date lui de 1869.
Je suis celui qui vient des profondeurs, my lords. Vous êtes les grands et les riches. C'est périlleux. Vous profitez de la nuit, mais prenez garde, il y a une grande puissance, l'aurore. L'aube ne peut être vaincue. Elle arrivera, elle arrive. Elle a en elle le jet du jour irrésistible. Et qui empêchera cette fronde de jeter le soleil dans le ciel ? Le soleil, c'est le droit. Vous, vous êtes le privilège. Ayez peur. Le vrai maître de la maison va frapper à la porte. Quel est le père du privilège ? Le hasard. Et quel est son fils ? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Je viens vous avertir, je viens vous dénoncer votre bonheur. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout, et ce tout se compose du rien des autres. My lords, je suis l'avocat désespéré, et je plaide la cause perdue. Cette cause, Dieu la regagnera. Moi, je ne suis rien, qu'une voix. Le genre humain est une bouche, et j'en suis le cri. Vous m'entendrez. Je viens ouvrir devant vous, père d'Angleterre, les grandes assises du peuple. Ce souverain qui est le patient, ce condamné qui est le juge. Je plie sous ce que j'ai à dire. Par où commencer, je ne sais. J'ai ramassé dans la vaste diffusion des souffrances mon énorme plaidoirie éparse. Qu'en faire maintenant ? Elle m'accable et je la jette pêle-mêle devant moi. Avais-je prévu ceci ? Non. Vous êtes étonné ? Moi aussi. Hier, j'étais un battleur. Aujourd'hui, je suis un lord. Jeu profond. De qui ? De l'inconnu. Tremblons tous. My lord, tout l'azur est de votre côté. De cet immense univers, vous ne voyez que la fête. Sachez qu'il y a de l'ombre.
Extrait de L'Homme qui rit encore et toujours de Victor Hugo. Et Jeanne Sénac, vous étiez presque, je pourrais dire, en transe en écoutant ce discours de Gwynplaine. Donc Gwynplaine, c'est l'homme qui rit, cet homme défiguré, un sourire monstrueux lui barre le visage. Et il se trouve que derrière cette figure de monstre se cache un lord qui s'adresse aujourd'hui dans ce discours-là aux privilégiés. Et c'est vrai qu'on se rend compte là que la mobilisation, l'idée d'être engagé, ne se fait pas que par des actions, mais aussi par des discours comme celui-ci.
C'est vraiment magnifique, je trouve, ce passage, et d'une dimension contemporaine extraordinaire, parce que cette idée que même dans les moments où on est en totale minorité, où on est moqué, puisque là, il a un parcours intéressant, L'Homme qui rit, on va sans doute donner envie de lire cet ouvrage magnifique d'Hugo, mais et d'ailleurs, c'est une amie comédienne qui, en le lisant, m'a fait prendre conscience de la beauté de ce texte, puisque il sait depuis très peu de temps qu'il est lord. Il a été abandonné, il a été défiguré, il a été recueilli. Lui aussi, donc, a vraiment eu une main tendue.
Un
philosophe à peau d'ours et un loup. Enfin, là aussi, il y a un entremêlement de la bête et de l'humanité. Là, il dit des choses d'une force folle, à la fois sur cette idée que le privilège est illégitime, est consubstantiellement illégitime, et qu'il ne peut pas tenir dans le temps. Donc là, il y a un horizon, qui est un horizon où quand on est dans la nuit, il y a toujours l'aube et l'aurore qui arrivent, et le rôle du droit aussi. Donc moi, c'est tellement fort par rapport aux travaux sur les mobilisations qui entremêlent à la fois la désobéissance civile dont on a parlé, mais aussi le plaidoyer, le recours au droit, et cette idée que le juste toujours renaîtra. Et quand on regarde avec du recul, nous, au début du 21e siècle, aujourd'hui, où on se sent bousculé, hein, on a l'impression que ceux qu'on croyait comme un jour qui ne pourrait pas s'éteindre, en particulier les droits fondamentaux dans des grandes démocraties comme les États-Unis, mais pas que, cette nuit qui arrive sur nous, et là je trouve que de lire ce passage, on se dit, pour tous ceux qui, dont le tout se compose du rien des autres, un passage magnifique, il faut aller troubler leur bonheur, et il faut se dire que leur fête ne durera pas, parce que le juste toujours reviendra, en particulier grâce au droit. Je trouve que c'est une leçon formidable.
Une dernière question sur Victor Hugo et Jeanne Sénac, et notamment sur ces personnages de Jean Valjean ou Gwynplaine. Ce sont des personnages, des individualités qui se métamorphosent. Mais est-ce que c'est pas la limite aussi du héros? C'est qu'il est seul.
Il est à la fois seul et il est avec toute la charge de l'histoire et des histoires. Il n'existe que dans ses relations avec les autres humains, les animaux. Donc en fait, il est jamais seul, puisque son mouvement, et Hugo dit, en fait, quand on dit que quelqu'un n'a pas changé, c'est terrible, c'est préférer l'huître à l'aigle. Et donc il y a toujours ce mouvement, et ce mouvement, il est permis par les rencontres, il est permis par les contradictions, il est permis par cet horizon de justice. Donc en fait, c'est une solitude qui est toujours habitée du juste et des relations avec les autres.
J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, il y a toujours une petite place, mais pas pour les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille de plantes dicotylées, donnent grammes aux pétales comme les azalées. Ça veut tout dire. Faudrait pas croire que j'ai de la haine pour ces petites fleurs qui ont plein de graines dans mon jardin. Il y en a plein et je ne vais plus dans mon jardin. Si seulement il y avait des roses.
Cette chanson, Réjeanne Sénac, pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué Victor Hugo, soit l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais vraiment que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Houellebecq.
Donc Michel, de son prénom. Et pourquoi ?
Alors, il y a deux raisons. C'est parce que je suis toujours intriguée par ces personnages qu'il faut avoir lus. J'ai essayé de le lire. Alors, j'ai lu certains ouvrages comme L'extension du domaine de la lutte en entier. Je me suis vraiment forcée parce qu'on m'a dit, mais si, il faut que tu le lises. Et il y en a d'autres, j'y suis absolument pas arrivée. Et là, vous m'avez obligée à me demander pourquoi. Et j'ai essayé de lire tous les ouvrages. Et là, dans mon sac, d'ailleurs, il y avait Hugo qui était mélangé avec Houellebecq. Je me dis, j'espère qu'ils ont un peu discuté, même si je suis, voilà. Il y a deux raisons. Je me suis dit qu'il y avait deux raisons. La première raison, c'est que, il y a souvent, très tôt dans l'ouvrage, des indices de complicité, voire de complaisance auxquelles je ne peux pas souscrire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un peu comme quand j'ai lu le dernier livre dans les Mille ou de l'éducation de Rousseau, où il dit, qui est consacré à l'éducation des filles, ou plutôt à la non-éducation des filles, où Rousseau...
Sophie, qui est Sophie, l'alter ego féminin de Émile.
Où Rousseau dit on va aborder les qualités de leur sexe et d'une autre. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'ils parlent uniquement à des hommes, qu'on n'est pas censé lire quand on est une femme, en particulier cet ouvrage-là. Et là, j'ai cette impression, c'est-à-dire j'ai l'impression que Houellebecq parle avec complaisance à une personne qui ne peut pas être moi, et contre laquelle moi je suis, que ma construction, que mon parcours est complètement oblique à cette personne-là. C'est-à-dire qu'il m'amène à avoir de la complicité avec quelque chose que je réprouve de tout mon être, qui est une espèce de beaufitude raciste, sexiste, dilettante, où on n'a pas eu d'humour si on trouve pas ça drôle, et où il pousse vraiment l'insupportable jusqu'au bout. Et en plus, avec cette idée que ça fait partie de l'identité française, j'avais lu un article sur Houellebecq dans un journal espagnol, et c'était intéressant parce qu'il disait, en fait, si c'était un espagnol, on le traduirait pas dans l'Espagne d'aujourd'hui, mais là, comme c'est en français, on trouve ça chic. Et moi, j'arrive pas à rentrer dans ce double mouvement. Et deuxième point, parce que je trouve que ça nous amène aussi à nous poser la question de l'œuvre et de l'artiste, qui est une question qu'on se pose beaucoup. Et il joue sur l'ambivalence, c'est-à-dire que dans son entretien dans Lire, suite à Plateforme, il dit la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Et en 2022, dans Front Populaire, il dit un entretien aussi lié à Soumission, la perte d'identité des Français menacée par les musulmans qui doivent cesser de voler ou de les agresser ou s'en aller. Et je trouve que là, il y a quand même ce fil très très ténu entre est-ce que c'est des personnages ou est-ce qu'il porte aussi une normalisation de tous ceux qui, à l'inverse de ce dont on a parlé dans cette émission, c'est-à-dire l'égalité, l'émancipation partagée.
Merci beaucoup Réjeanne Sénac. De vous, on peut lire « Comme si nous étions des animaux », c'est paru au Seuil, radical et fluide, les mobilisations contemporaines aux presses de Sciences Po, l'égalité sans condition, osons nous imaginer être semblables aux éditions Rue de l'Échiquier. Bientôt, on pourra vous lire avec une mention de l'homme qui rit. Et pour lire Les Misérables de Victor Hugo et toutes ses œuvres, les éditions sont multiples en intégrale, en abrégé, il y a Livre de Poche, Gallimard, Folio, L'École des Loisirs et bien d'autres. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation et à Alex Dang à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France. Lundi, c'est Géraldine Mulman et son équipe que vous retrouverez à ce micro pour une nouvelle série d'émissions d'Avec Philosophie.